Et on s'arrête à 11h, c'est ça?
Eh bien, écoutez, je vous remercie de vous être levé si tôt le matin pour venir nous écouter. C'est quand même sympa de se sentir soutenu. Parce que nous, on s'est levé tôt aussi. Donc, pour venir écouter cette table ronde sur la littérature pour la jeunesse qui s'intitule « Je suis grand et je ne rêve plus » avec, alors que je me souvienne des noms, avec Anne Guéraud.
Bonjour tout le monde.
Qui est l'une des deux composantes d'un écrivain bicéphale, Ange, et qui a publié quelques romans jeunesse, à commencer par... c'était L'Œil des Dieux, le premier, chez Mango ?
Tout à fait, c'était L'Œil des Dieux, le premier.
Et puis là, récemment, on a eu À milieu de toute terre habitée, chez Syros, et on a eu également L'Arche de Noah, toujours chez Syros.
Non, chez Intervista.
Chez Intervista, effectivement, pardon. Mais bon, c'est le même directeur de collection, j'ai mélangé. Gilles Francescano, qui est illustrateur et qui vient là parce qu'il a... d'abord parce qu'il est illustrateur et c'est toujours intéressant d'avoir le point de vue de l'illustrateur. Et il a également récemment fait la couverture d'un roman de Pierre Bottero. On échappe soudainement, Les âmes...
Les âmes croisées.
Les âmes croisées,
tu
merci.
Tu vas te faire lâcher par les fans qui sont dans la salle.
Oui, je suis désolé, mais enfin, les fans dans la salle savent que je suis fatigué. Donc j'ai eu un trou de mémoire, excusez-moi. Et surtout, il est là pour le roman graphique Le Chant du Troll avec Pierre Bottero. Et donc Anne Fakouri, qui, si je me souviens bien, a publié un roman en deux tomes aux éditions La Talente, qui s'appelle Le Clairvoyage pour le tome 1. Et La Brume des Jours pour le tome 2.
Bien.
Je réfléchis, hein, t'as vu. Et qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire Bonjour. L'année dernière pour un premier roman. C'est quand même plutôt bon, tout ça. Donc, je vais reprendre l'intitulé au vol. Je suis grand et je ne rêve plus. J'avais envie, pour changer un petit peu, parce que bon, on a souvent l'habitude d'avoir ce genre de débat sur la littérature de jeunesse et tout. J'avais envie de le prendre un petit peu différemment pour une fois et de vous poser une question. Est-ce que les rêves jouent un rôle dans la création chez vous, les uns et les autres? Et je vous le dis d'autant plus volontiers que un auteur qui n'est pas là ce matin sur ce plateau, Karina Rosenfeld, vient de publier D'Oregon aux éditions La Talente, et elle me téléphone un matin en me disant « Stéphane, j'ai une idée, j'ai fait un rêve ». Je te raconte mon rêve, je crois que c'est mon prochain roman, je sais que c'est mon prochain roman, je sais pas, je te raconte mon rêve, tu me dis si c'est publiable. Et ce rêve, c'était il y a un an et demi, ce rêve est devenu D'Oregon. Et on retrouve effectivement tout le rêve à la base du livre. Tout ce qu'elle m'a raconté ce jour-là est toujours présent. Donc, le rêve, ça vous arrive de garder des idées que vous auriez eues en rêve, soit pour écrire, soit pour dessiner, soit pour bonifier quelque chose, carrément à la base de la création déjà. Puis après, on pourra parler peut-être du rêve quand vous êtes en pleine écriture, qui alimente ce que vous faites. Quelqu'un veut se lancer sur cette question ? Anne.
Tout le monde me regarde.
Donc Anne Fakouri.
Oui, moi je travaille beaucoup à partir de mes rêves, surtout que j'ai un rapport au rêve assez, assez particulier. J'ai tendance à confondre le rêve avec la réalité, mais au sens vrai, c'est-à-dire avoir conscience que je rêve et influencer du coup mes rêves. D'ailleurs, mon prochain roman, qui est un roman adulte cette fois-ci, parle du monde des rêves et est parti d'un rêve que j'ai fait. Effectivement, je me suis réveillée, j'ai fait sans doute comme Karina et comme beaucoup d'auteurs, j'ai pris un carnet, j'ai tout de suite pris des notes. Donc des images en tout cas. Je garde des images de certains rêves et je construis une histoire autour de ça.
Et tu as une bonne mémoire de tes rêves quand tu te réveilles ou tu aurais élaboré des techniques un peu particulières pour t'en souvenir, ou tu te réveilles, tu les as en tête?
Non, j'ai une très bonne mémoire de mes rêves parce que j'ai cette conscience aussi du rêve. C'est vraiment, je ne sais pas si c'est un nom d'ailleurs, faculté ou au contraire cette déviance, je ne sais pas, qui permet d'avoir vraiment conscience qu'on rêve au moment où on le fait, donc d'influencer ce dont on rêve.
Gilles, peut-être ?
Moi, déjà, je suis ravi de savoir qu'on peut t'appeler à 4 heures du matin pour te raconter des rêves. Je me sentirai moins seul la prochaine fois.
Oui. Ouais, mais c'est à vos risques et périls après.
Disons oui, je répondrai oui. Disons, pour moi, c'est un petit peu plus facile, je dirais, parce que je n'ai pas besoin de traduire le rêve ensuite en syntaxe et autres, puisque les images elles-mêmes s'imposent d'elles-mêmes. Disons, tous mes rêves un petit peu forts, je me lève souvent pour les écrire, en fait, et puis ça, quelques années plus tard, je me rends compte que, je dirais inconsciemment, le rêve est passé dans une image que j'ai pu mettre sur une couverture ou sur un travail personnel, donc ça, c'est assez amusant. Mais sinon, par contre, à contrario, il m'arrive effectivement, lorsque j'ai une problématique sur une image, de m'endormir le soir en essayant de la visualiser, de voir exactement le souci que je rencontre, et d'espérer que quelque chose se produise durant la nuit.
Et ça marche ?
Quelquefois. Mais la prochaine fois, je t'appelle.
Oui, enfin, Karina a rêvé à cette heure-là, mais elle m'a appelé beaucoup plus tard.
Oui, moi, c'est pareil. Je pense que la plupart des auteurs, c'est pareil, en effet. Un de mes romans adultes, en fait, a commencé comme ça. Je me suis réveillée avec une scène extrêmement claire d'un homme qui se noyait dans une galère, dans un décor de printemps extrêmement lumineux.
Donc, c'est le début d'Ayesha ?
C'est le début d'Ayesha. Et avec, je sentais l'odeur des fleurs, de la brise, la chaleur du soleil sur les membres du héros, etc. Et quand je me suis réveillée, je savais que c'était le début d'un roman. Et après, j'ai travaillé en escargot par rapport à ça. C'est-à-dire, j'ai ça, donc il est là, il se noie. Bon, comme je veux la suite d'un roman, il faut pas qu'il meure, donc qui va le sauver. Ensuite, cette personne qui va le sauver, pourquoi l'a-t-elle sauvé? Ensuite, on est dans quel monde? Qu'est-ce qui va se passer après? Ce monde-là, comment je peux le faire exister? Et comment ces personnages peuvent avoir une signification dans ce monde-là, etc. Et comme une spirale, en fait. Mais en fait, pour rebondir sur le titre du débat, cher Stéphane, je pense que tout le monde fait ça. C'est-à-dire que tout le monde rêve, tout le monde a des mondes, des impressions, des textures, des odeurs, des délires. Et la seule différence, c'est que les auteurs savent que c'est utile ou décident que ça va leur être utile, alors que les autres pensent ou que c'est inutile ou décident de ne pas l'exploiter. Mais je dis ça pour me rebeller contre l'intitulé de ce débat, « Je suis grand et je ne rêve plus », parce que je pense que c'est ridicule comme intitulé de débat.
Enfin, c'était surtout provocateur.
Bien sûr.
C'est intéressant parce que j'ai bien senti que tu étais parti pour dire les auteurs d'un côté, les adultes de l'autre.
Non.
C'était intéressant.
Non, vraiment pas.
Oui.
Je vais me permettre de rebondir là-dessus. C'est d'autant plus ridicule que là, on part d'un postulat qui est « Tous les enfants rêvent et perdent cette faculté ». Or, ça n'est pas tout à fait vrai. Certains enfants ont une prise directe avec le réel. Dès la naissance. Ils n'ont pas d'imaginaire en soi, donc rêvent effectivement, parce que tout le monde rêve effectivement, mais ne savent pas quoi en faire. Je connais d'autant plus de problèmes que j'ai une petite fille dont c'est le cas, ce qui est quand même un comble pour un auteur de l'imaginaire. Donc même à la base, cette idée que tous les enfants rêveraient, qu'on perdrait cette faculté, bon. C'est le thème de Peter Pan, très bien, mais ça n'est pas vrai. Il y a des enfants qui n'ont pas cette faculté d'utiliser, comme disait Anne, d'utiliser l'imaginaire.
Si tu as quelque chose à dire.
J'avais quelque chose, mais je l'ai oublié, mais c'était très très bien.
Ça veut dire quoi quand tu disais tout à l'heure que tu vis dans le rêve ?
J'ai dit que je vivais dans le rêve ? D'accord, c'est la drogue, c'est rien. Mais voilà.
En fait, tu as dit quelque chose qui s'apparente à ça, que tu vis plutôt dans le rêve plus que dans le réel.
Ah non, c'est vraiment le fait de quand je rêve, j'ai cette conscience du rêve. Donc je peux influencer mon rêve pour aller là où je veux. Et du coup, je dirais avoir une interaction plus forte que quand on rêve simplement. On subit un rêve. J'arrive à, quelquefois, vraiment influencer mon rêve. Et donc, à aller déjà vers une forme de créativité, en fait, et du coup de le réutiliser plus facilement. Pas être passive vis-à-vis du rêve et de simplement de l'expression, de l'inconscient, par le symbole. Mais non, je ne vis pas dans un rêve éveillé. Je ne vis pas dans le monde de Walt Disney. J'aimerais bien. Mais non.
Oui, d'abord, pour dire que c'est excellent, cette faculté. Je crois que ça se développe et qu'elle est technique, mais je suis très admirative. Et aussi, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Aussi, le rêve, c'est pas seulement l'imaginaire. C'est pas seulement le merveilleux, la fantaisie, ou l'horreur, ou la terreur. Les adultes rêvent. Je veux dire, on est dans un festival qui s'appelle les Utopiales, donc l'utopie. L'utopie, c'est des rêves rêvés par des adultes qui ont essayé de les mettre en place. Les grands architectes, les grands scientifiques, les grands démocrates ont rêvé et essayent d'appliquer ce rêve à leur réalité. C'est pas merveilleux d'être enfant, en fait. C'est pas merveilleux d'être enfant, et là je rejoins Anne, il n'y a pas cette espèce de barrière où on est un enfant et on vit dans un monde idéal et on parle aux fées et aux animaux, et après on l'oublie. Moi j'y crois pas du tout non plus, enfin, je rejoins complètement Anne sur ce point. Au contraire, quand on est adulte, on peut se battre pour ses rêves et essayer de les rendre réalisables, de les rendre réalité, et d'où l'utopie par exemple. Donc voilà, donc deuxième argument contre l'intitulé de ce débat.
Donc, autre chose, donc on va revenir sur le côté provocateur du titre « Je suis grand et je ne rêve plus ». Ça laisserait entendre qu'il y a une différence entre littérature pour les adultes et littérature pour la jeunesse, dans un sens, puisque si on ne rêve plus quand on est grand, quid de la littérature. Je m'adresse de nouveau à Anne, puisque tu écris pour les adultes et pour la jeunesse, est-ce qu'il y a une différence dans le processus de création, de maturation, ou, voire l'ancrage sur le rêve?
Non, 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 pas du tout, pas du tout. Au contraire, enfin, je veux dire, les romans de science-fiction, puisqu'on est, bon, on est là pour parler de science-fiction aussi, les romans de science-fiction les plus complexes, les romans de fantasy les plus complexes, avec un univers extrêmement sophistiqué, extrêmement développé et extrêmement étrange, moi, je les vois dans des romans pour adultes. Évidemment, il y a le Seigneur des Anneaux, il y a les bons romans de hard science où on se plonge vraiment dans quelque chose de complètement alien au sens propre du terme, où on a l'impression d'être dans un monde inhumain, ce qui ne veut pas forcément dire négatif, mais d'être projeté dans un ailleurs qui ne peut être que rêvé, que pensé, que développé par un scientifique, donc par un adulte. Alors, une nuance à ça quand même, les albums pour enfants. Donc pas la littérature 8 et plus, 12 et plus, mais vraiment les albums avec des illustrations, et là peut-être Gilles peut peut-être réagir. Là aussi il y a une imagination extrêmement délirante, une imagination graphique. Il y a des choses dans les albums pour enfants, il y a des délires qui sont, je ne sais pas, un peu art contemporain ou un peu... qui vont dans tous les sens, qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Je veux dire, les albums pour enfants sont sans doute parmi les plus créatifs de la littérature en général.
C'est vrai que visuellement, tu parles de différence, effectivement, c'est énorme. La créativité, moi, que je trouve dans les lectures pour enfants en forme d'album, effectivement, je serais curieux de voir comment ça pourrait être adapté, disons, à une littérature adulte. La différence entre les deux, moi, ça a fait partie d'un des débats avec Pierre Bottero lors de nos premières rencontres. Et, disons, de sa part, c'était extrêmement virulent, en fait, comme réaction. Alors, ça m'avait assez intrigué, non pas forcément le contenu de la discussion, mais la force de la réaction. Et du coup, je me suis aperçu un petit peu, et je me suis du coup posé la question par rapport aux auteurs jeunesse que je connaissais. Et je me suis dit, est-ce que ce sont, disons, des auteurs d'une littérature qui est encore plus, finalement, cloisonnée que, enfin, en tous les cas, un sentiment d'être mis encore un peu plus à part que, par exemple, les courants qui nous attirent aujourd'hui durant ce festival, par exemple. Il y a déjà cette espèce de clivage fait, bon, sur les littératures de l'imaginaire, et j'ai l'impression qu'il y a quand même inconsciemment un clivage supérieur fait ensuite vers la littérature jeunesse. Moi, en tant que lecteur, je retrouve pas forcément, disons, de différence. Bon, certainement dans la structure, ensuite sur les, entre guillemets, sur les objets de censure, on dira. Mais effectivement, bon, moi au départ, par exemple, sur la discussion, je mettais en avant l'aspect peut-être plus politisé de certaines littératures adultes, mais j'avais l'impression que je ne faisais que répéter, malgré moi, je dirais, mon éducation d'illustrateur faite, par exemple, à partir des textes d'Ayerdal, forcément. Mais bon, par exemple, sur l'anecdote, effectivement, Pierre Bottero, du coup, par exemple, avait fait une réadaptation de Elana en poche avec des scènes, des scènes qui auraient été censurées s'il les avait publiées sur une littérature jeunesse.
Oui, entre autres des scènes érotiques.
Voilà, entre autres une scène érotique. Alors, pourquoi cette nécessité? Est-ce que c'était vraiment voilà, pour une preuve, disons, du genre j'écris pour la jeunesse, mais je suis capable d'écrire pour la littérature adulte? Dans la démarche, il y a quelque chose, disons, d'intrigant, et pas forcément dans la forme, en fait. Il y a vraiment quelque chose dans le fond du débat, quoi.
Et vous le sentez, ce clivage, vous, en tant qu'auteur jeunesse? Secteur adulte, secteur jeunesse?
Comme Diane, dans la complexité des mondes, oui. Dans les thèmes abordés, non, pas tellement. Dans l'émotion non plus, dans l'émotion qui peut être véhiculée. Au niveau des lecteurs, je ne me rends pas du tout compte. Il y a vraiment un clivage entre les lecteurs de... Est-ce que les adultes lisent du jeunesse? Oui, on en a la preuve. On en a la preuve flagrante par Harry Potter, déjà. Et puis... Nous aussi. Non, finalement, non. Enfin, moi, je ne ressens pas tellement ce clivage.
Pareil, je ne sens pas de clivage, mais j'étais en train de me dire, justement, pour revenir aux albums, qui sont décidément un de mes chevals de bataille aussi, ils devraient être là, en fait, les auteurs d'albums moins de 5 ans. Parce que, justement, graphiquement et parfois même littérairement, c'est pas le domaine, mais c'est un des domaines où on trouve franchement la science-fiction et la fantasy la plus délirante. Eux ne considèrent pas ça comme de la science-fiction et de la fantasy, ils considèrent ça comme du merveilleux ou de l'onirique, ou je ne sais pas d'ailleurs comment les éditeurs considèrent ça, mais ils auraient complètement leur place aux utopiales. Je veux dire, franchement, c'est bien plus délirant que la plupart des bandes dessinées. Il y a une bien plus grande liberté et il y a des graphistes et dessinateurs incroyables qui créent des mondes. Voilà quoi, vraiment.
Claude Ponty, François Place et quelques autres.
Donc ils auraient leur place certainement ici, je pense.
Tout à fait, tout à fait. Et on y pense d'ailleurs. Mais pour rester dans cette direction-là, avant de passer à autre chose, est-ce que comment vous abordez un livre pour la jeunesse? Alors encore une fois, j'ai Anne avec moi, Anne Guéraud, parce qu'il y a deux Anne sur. Pour faciliter les choses, il y a deux Anne sur cette table ronde. Anne Guéraud qui écrit pour les adultes et pour la jeunesse, et puis toi Gilles qui fait des illustrations pour les adultes et pour la jeunesse. Est-ce que vous vous limitez ou plutôt, non, pas est-ce que vous vous limitez. Quand vous passez de l'un à l'autre, est-ce que vous mettez des limites? Est-ce que vous abordez les choses différemment? Puisque Anne Guéraud nous dit que la littérature pour la jeunesse est souvent plus délirante que la littérature pour les adultes. Moi, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous êtes obligé de vous contraindre un petit peu dans votre imagination quand vous passez de la jeunesse, où a priori c'est plus libre, au monde de la publication pour adultes? Est-ce qu'il y a une... ou alors une demande des éditeurs d'avoir quelque chose de plus contrôlé? Moi, je me fais souvent la réflexion quand je lis des romans pour la jeunesse ou quand je regarde des albums, que c'est hyper inventif, que c'est hyper vivant, que c'est ça part dans toutes les directions. Quand on est dans le secteur de la littérature de jeunesse, il y a des auteurs, il y a des romans qui sont totalement inclassables. Quand on est dans le secteur de la littérature pour les adultes, on arrive toujours peu ou prou à classer. Bon, après, on sait ce que valent les étiquettes, on sait qu'elles sont contestables, mais on arrive toujours à classer. Quand on me demande en jeunesse de temps en temps, Stéphane, tu le rangerais dans quoi ça? Je réponds, c'est totalement inclassable. Où est-ce que voulez-vous que je le mette? Où voulez-vous que je le mette? C'est complètement délirant. Donc, est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Dans le processus de création, je me demande parfois si vous contraignez plus quand vous êtes chez les adultes, alors que ce serait plus ouvert chez les enfants. Oui, je sais, il est tôt.
Je dirais, moi, pour par exemple, c'est plus facile de parler du visuel, puisque c'est ce qui va nous frapper avant de passer par le décryptage de la lecture. Moi, indéniablement, oui, effectivement, il y a eu une grosse différence sur un travail jeunesse et sur, entre guillemets, mes travaux adultes habituels. Que ce soit dans le choix des thèmes abordés, que ce soit dans le cadrage des images, et surtout dans la couleur, en fait.
Ouais.
Surtout dans la couleur. J'avais une palette qui était carrément moins colorée avant de travailler pour la jeunesse. Et chaque jour, on enlève les couches de fumato. On nettoie l'image.
Ah ouais.
Et moi, ça a été un exercice extrêmement intéressant pour ça, quoi, entre autres.
Et ça s'est fait tout seul ou c'est ton éditeur au bout d'un moment qui a dit « Bon Gilles, là, il faudrait peut-être aller plus loin » quoi.
Ben disons, ça s'est fait petit à petit par quelques expériences, disons, autres que le chant du troll, hein, par exemple. La dernière étant effectivement la plus récente, le chant du troll en travail, disons, plus important. Mais même sur les couvertures précédentes, par exemple, tu es bien placé pour le savoir, par exemple, pour La Talente, que ce soit avec le Mystère Olfit, par exemple, de Karina Rosenfeld, justement, ou même, par exemple, les Croix en feu de Pierre Pelot. Là, le sujet était extrêmement, je dirais, sérieux. Et pour moi, disons, c'était donc travailler sur un sujet dont je ne voyais pas forcément la différence entre lecture jeunesse et lecture adulte, mais par contre, cette différence devait finalement apparaître sur la couverture, alors que moi, je sais avoir travaillé sur ma palette habituelle, donc forcément, il y a un petit décalage. Et ensuite, bon, ben, ce travail, je dirais, contraint un petit peu par la nécessité, m'a fait enlever quelques couches de noir, entre guillemets, pour arriver à des images plus vivantes, telles que Les âmes croisées, par exemple, qui fonctionnent plutôt bien en jeunesse, et ensuite le travail sur le chant du troll.
Et quand tu refais des travaux pour le secteur adulte, je ne sais pas si tu en as fait beaucoup ces derniers temps, comment tu vas l'envisager ? Du coup, tu as une palette beaucoup plus ouverte, mais est-ce que tu vas te restreindre sur certains éléments malgré tout en adulte, sur lesquels tu ne te restreindrais pas en jeunesse ?
Non, du coup, si on parle vraiment juste de la couleur, effectivement, ça a vraiment modifié ma perception du travail.
Et des thématiques ?
Et des thématiques, mais disons les thématiques étant... On est en train de dire que finalement, elles sont proches entre les deux types de littérature, et c'est le regard que l'on a dessus qui va un petit peu modifier le sujet lui-même et la perception colorée. Donc moi, mon travail, ma vraie différence, en fait, je l'aperçois sur la couleur, en fait, aujourd'hui.
Anguero, un petit mot sur cette question. Est-ce qu'on se restreint, finalement, quand on passe en secteur adulte ?
Alors, tu vois, je ne l'aurais pas dit avant, mais depuis 5 minutes, j'y réfléchis. Et je pense qu'en fait, oui, et je pense que tu me fais réaliser ça pour la première fois, qu'en effet, je suis beaucoup plus libre en jeunesse. Moi, j'ai un gros problème, en fait, dans mon œuvre, c'est que je ne suis pas assez délirante, et je le sais. Je le sais profondément, je sais que c'est un problème, c'est quelque chose dont j'aimerais m'affranchir. Je suis quelqu'un d'assez rationnel, normalement, et j'irai dans ma vie. Et du coup, et même si j'adore la science-fiction et la fantasy, évidemment, et que j'ai grandi avec ça, je suis assez structurée dans mes histoires, et mes histoires sont relativement réalistes. Réalistes pour de la science-fiction et pour de la fantasy. Et c'est un problème chez moi, c'est vraiment quelque chose dont j'aimerais me sortir, mais je ne peux pas m'empêcher de structurer. Il faut voir aussi que je suis scénariste de BD par ailleurs, et que la BD est une école terrible, parce que les contraintes sont énormes.
Et c'est vrai que j'aurais pu préciser tout à l'heure que tu es scénariste de BD, parce que entre le Collège Invisible et la geste des Chevaliers Dragons, c'est quand même des choses très intéressantes.
Le défaut, enfin les contraintes de la BD franco-belge, c'est que c'est 46 pages. Un album de BD, c'est 46 pages de BD. Et c'est pas une page de plus, c'est pas une page de moins. En moyenne, il y a 9 cases dans une page, donc 46 fois 9, ça fait combien ?
Trop.
Voilà, pas assez. Non, pas assez, pas
ça
assez.
Ça fait 460 moins 9, ça fait 451.
Et donc, imagine, raconter...
C'est ça ? Non ? J'ai essayé de l'avoir au bluff, mais ça marche pas. Mais c'est 46 fois 9. Ça fait 46 fois 10 et on enlève 9.
Non, mais c'est ça.
Pardon ? On enlève 46. Moi, j'ai toujours été nul à l'école, mais en maths. Non, j'ai été bon à l'école, attendez. Bon, ça y est, je me suis couvert de ridicule.
Mais non, mais c'est pas...
Oui, on enlève 46, forcément. Ça fait trop.
Ça fait pas assez. Ça fait pas assez pour raconter une histoire. Et surtout, tu peux pas faire refaire les planches. Le dessinateur, il va pas redessiner des planches qui lui ont pris des semaines et des mois à dessiner parce que tu as changé d'avis ou parce que tu n'as pas structuré ton histoire et que tu es arrivé à la fin et qu'il te manque 3 cases à la fin. Il ne va pas y avoir une planche 47 avec 3 cases. Donc c'est une école terrible. La fin, elle doit arriver 2 planches avant ou 3 planches avant. Le début, il doit être lancé avec le conflit et les nœuds de l'action à partir de la planche 15. Et il y a un premier acte, il y a un deuxième acte, il y a un troisième acte. Et c'est comme ça, sinon ta BD, elle est ratée. Et si ta BD, elle est ratée, c'est pas comme... Quand un roman est raté, tu peux le réécrire au dernier moment, l'améliorer. Et puis s'il sort, à la limite, il n'y a que toi et l'éditeur qui en souffrez. Là, le dessinateur va perdre 1 an de sa vie si tu rates la fin de la BD. Et donc, c'est une école de structure extrêmement difficile et tu ne peux pas vraiment délirer. La BD, c'est créatif, évidemment. Mais ce sont des histoires extrêmement structurées. Et les romans aussi, les romans adultes, moi, je fais beaucoup, beaucoup plus attention aux règles de la dramaturgie, en fait. Le pistolet dans l'acte 1 doit détonner dans l'acte 5. Enfin, dans les dernières pages de ta trilogie, si tu veux. Et en jeunesse, eh ben, je me sens beaucoup, beaucoup plus libre avec ça. Mais cela dit, moi, il me manque une bonne dose de délire. Donc, si vous avez une pilule, n'hésitez pas.
Tu vas demander à Anne les produits qu'elle prend.
Alors, Anne, tu viens d'écrire un roman.
Mais si je peux me permettre, pourquoi est-ce que tu veux t'affranchir de ça? Pourquoi est-ce que, quand on écrit la jeunesse, on devrait être obligatoirement délirant et structuré quand on écrit pour les adultes? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Il y a des enfants... Et Dieu sait si j'en côtoie en tant que prof, qui ne sont absolument pas délirants, qui sont terrifiés, mais terrifiés, dès qu'on devient délirant justement avec eux et qu'on dépasse leur structure. Donc, pourquoi est-ce qu'on tombe là-dedans? Moi, pour revenir à la question de Stéphane, la différence entre le roman...
D'autant plus que tu viens d'écrire un roman pour les adultes,
ouais,
donc
ouais.
Qui va sortir, on n'est pas tout à fait... on n'a pas encore le titre définitif.
Non, mais on y travaille, mais qui va sortir en mars, normalement. La différence, moi, ça a été vraiment dans la narration. J'ai pas eu l'impression de me restreindre dans les thèmes, parce que le clairvoyage aborde la mort, la responsabilité, la place qu'on a dans le monde, et j'ai encore l'espoir que des adultes réfléchissent régulièrement à la place qu'ils ont dans ce monde. Donc, je me suis pas restreinte dans les thèmes. En revanche, c'est vraiment dans la narration. En écrivant un roman en jeunesse, j'ai eu l'impression de marcher sur des œufs en permanence, parce que j'ai dû observer. Pour écrire, observer les enfants autour de moi, observer mes élèves, observer, voilà. Parce qu'il était très difficile de puiser uniquement dans mes souvenirs. Il se passait quand même un peu de temps entre mon adolescence et maintenant. Et en revanche, pour ce roman adulte, j'avais juste à puiser en moi. Donc c'était beaucoup plus finalement facile dans la narration, mais beaucoup plus douloureux aussi, en fait. Voilà, sur le roman adulte, ça a été quelque chose de plus douloureux, où là, en revanche, j'ai dû me restreindre pour éviter de laisser tomber toutes les digues. Mais en jeunesse, non, enfin, pas dans les thèmes, en tout cas. J'ai pas eu l'impression voilà. Et moi, à l'inverse d'Anne, je dois structurer à mort. Donc, je veux bien qu'on échange des tuyaux comme ça voilà, parce que... Parce que sinon, je tombe effectivement dans une permanence de...
Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de structurer à mort tes textes, alors qu'il y a, au moins dans le diptyque jeunesse, il y a une dimension onirique très prononcée. Donc c'est assez savoureux de voir un auteur qui nous parle de vraiment cadrer tout ça pour aller vers l'onirisme et le délire, alors qu'on a un auteur qui nous dit exactement le contraire, en fait. Je veux arrêter de cadrer... pour pouvoir être plus dedans. Donc, c'est assez...
Non, mais on va s'échanger des trucs après. Ouais.
L'autre question que je voulais vous poser, c'est pour revenir sur le rêve lui-même. Le rêve, l'onirisme, c'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui fait partie de la vie psychique, qui fait partie de la vie fantasmatique. Et il y a souvent dans les romans des passages, on finit par presque penser le passage obligatoire du personnage qui rêve. Est-ce que ça vous fascine ou ça vous fait peur, la description du rêve? Je pense aussi à Gilles, parce qu'il y a un côté onirique très marqué dans Le Chant du Troll, hein, avec le jeu sur les deux mondes. Il y a certaines planches qui sont limite oniriques. Est-ce que c'est quelque chose qui fascine, qui vous attire, ou quelque chose qui vous fait peur? Dans le clairvoyage, il y a les rêves de l'héroïne qui se retrouve dans le palais avec le bal, etc. Enfin, on a des descriptions de rêves chez certains, pas chez d'autres.
Si je peux me permettre, juste sur le fait de travailler à partir de cette matière-là, moi, par rapport aux images, en fait, que la transcription, que ce soit du rêve ou autre, passe par l'image. Moi, j'ai vraiment le sentiment, et depuis toujours, quand je me coule dans le texte, en fait, pour illustrer un auteur, c'est vraiment de l'écouter me raconter son rêve, en fait. Tu vois, il est assis sur mon épaule, alors que ce soit Jean-Claude Dugnac ou d'autres... voilà, il est assis sur mon épaule, il me raconte son rêve, et moi, je tâche de le retranscrire et puis d'en faire une substance. Mais... Donc par rapport au rêve, ça va être un petit peu similaire. Et bon, par contre, je ne peux pas effectivement m'affranchir de tout ce qui a été fait. parce que j'ai été baigné, moi, dans une, que ce soit dans une littérature ou dans une éducation artistique picturale, faite des symbolistes, faite de pré-raphaélisme, faite de tous ces courants qui ont quand même travaillé sur cette matière du rêve ou de la poésie. Et donc, bon, ben, peut-être que ça se ressent effectivement aujourd'hui, ce qui m'attire un peu plus, effectivement.
Oui. Enfin, moi, j'allais te dire, ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que de fait, tu ne travailles que sur les rêves des autres, tout en convoquant tes propres rêves. Donc, il y a une belle dimension onirique, là.
Ben, oui, ouais. Je suis d'accord.
Quelque chose qui m'est venu en écoutant Gilles et qui, en tout cas, moi, me parle, c'est en revanche, en tant qu'auteur, peut-être que nous sommes nos propres traducteurs. Et que c'est là où on doit transformer vraiment cette matière du rêve en mots et en quelque chose, pour le coup, de structuré. Ne pas rester que dans l'impression et essayer de construire véritablement une histoire autour de l'image à l'inverse.
Disons, moi, là, effectivement, quand tu parles que vous passez par le filtre de la structure, forcément par le langage codé, je dirais, moi, j'ai vraiment le sentiment d'avoir une extrême liberté devant la feuille blanche, quoi. Enfin, alors que ce soit par rapport à un rêve qu'on m'a susurré à l'oreille, ou par rapport à un automatisme, je dirais tout simplement, de création, à savoir à quel moment va s'agiter la main, à quel moment le flux passant du cerveau à la main va faire que les agitations, les soubresauts frénétiques de la main sur le papier vont aboutir à quelque chose, à quel moment ça va se transformer en quelque chose de structuré, en tous les cas perceptible par quelqu'un d'autre, mais le processus, disons vraiment, qui amène du cerveau à la main, pour moi, c'est quasiment une lecture automatique, en fait. Enfin, dans les premiers croquis, bon, après, j'espère structurer un peu plus, quand même, mais sur ce qu'on pourrait appeler l'inspiration, c'est vraiment une lecture automatique que je retrouve parmi beaucoup de confrères, hein, je dirais, actuels ou plus anciens, quoi, en fait. Dans les descriptions de Hans-Rudi Giger, par exemple, lorsqu'il travaillait à l'aérographe, c'est vraiment...
Hans-Rudi Giger, il est connu pour avoir fait les décors de Alien.
Voilà.
Il faut quand même préciser de qui il s'agit.
Et lui, donc, il s'est amusé à trouver ce médium. Bon, moi l'aérographe, donc, étant le petit pistolet à peinture avec lequel il travaillait, moi, c'est un appareil avec lequel j'ai travaillé pendant 21 ans, que j'ai arrêté il y a 4-5 ans. Mais c'était vraiment dans un processus automatique, à savoir, il projetait un petit nuage qui faisait, par le geste de la main, simplement, la créature naissait à ce moment-là. Et si on trouve un médium adéquat, suffisamment fluide, effectivement, ça passe, ça coule. C'est pour ça que j'aime bien employer ce mot de se couler dans le texte, parce que j'ai vraiment le sentiment que ça coule le long du bras jusqu'à la main, quoi. Quand ça fonctionne, après, bon.
Donc la création, c'est l'inconscient pur. En gros, c'est ce que nous dit Gilles. Moi, je vois notre ami qui structure beaucoup.
Ah non, moi, j'essaie de structurer. Mais, bah oui. Mais parce qu'à l'inverse, de la même façon que j'arrive à contrôler les rêves, en revanche, je décroche quand je suis réveillée. Donc, si j'ai pas ça, c'est... voilà, c'est... Mais de l'inconscient pur, non, bien sûr que non. Non, il y a une part d'inconscient, évidemment, dans toute forme de créativité, mais on est obligé de passer par cette conscience absolue de la structure et de la communication, surtout, en fait. On peut pas être on est dans cette traduction, effectivement, peut-être, oui, de l'inconscient.
Oui, donc l'auteur serait un traducteur de l'inconscient. Sinon, c'est du gloubi-boulga, on peut rien comprendre. C'est son gloubi-boulga, soi.
Oui.
Un petit mot là-dessus, Anne, parce que c'est très...
Non, je suis d'accord.
Très bien, je te remercie. Autre question que je voulais vous poser, c'est concernant le rêve lui-même. Je vous posais la question de la description du rêve. Alors, je reviens à la charge là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Il y a eu un film l'année dernière, Inception, enfin là, tout récemment, que moi j'ai trouvé vraiment très très bien boutiqué, parce que c'est quand même une glissée. C'est le contraire de ce qu'on dit. C'est-à-dire, cette fois, on rentre dans les rêves, on glisse dans les rêves, on s'y enfonce de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, si vous a intéressé, Mais vous, en tant qu'artiste, est-ce que le rêve en soi vous intéresse ou c'est un truc qui vous fait peur? Après, on peut être envoyé à des, ben, pour être sur les albums jeunesse, on peut être envoyé sur des Claude Ponty avec son univers complètement onirique et délirant. En bande dessinée, on peut aller chez Philémon et puis des trucs beaucoup plus récents aussi. Enfin, voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire, des choses que vous aimeriez faire mais vous n'osez pas, des choses que vous allez faire que ou ça vous intéresse pas du tout?
Oui, moi j'adore décrire les rêves au point que je me retiens parce que parce qu'il faut que ça serve l'histoire. Justement, comme j'ai tendance à être très structurée, je me retiens. Peut-être que je ne devrais pas. Et en effet, j'ai tendance à mettre des descriptions de rêves un peu partout. Ça me permet justement un petit espace où je peux délirer complètement et pas trop me censurer et pas trop me structurer. Et je fais attention parce qu'un jour j'ai lu une critique il y a quelques années qui disait oui, bah, évidemment, Ange nous met encore des rêves. Bon, voilà, c'est toujours la même chose, donc j'ai freiné à mort et j'en mets beaucoup moins, mais j'adore ça. Et je voulais dire aussi, dans Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad, il parle du rêve au début. Et il y a un texte que je suis bien incapable de vous citer parce que je n'ai aucune mémoire, qui est magnifique sur justement la description du rêve. Et Au cœur des ténèbres, bon, c'est une plongée dans un cauchemar en fait, même si le cauchemar est réel. Et je crois qu'Au cœur des ténèbres, franchement, c'est la meilleure description du rêve et de cette espèce d'engluement. Je ne sais pas si engluement existe, mais on va dire qu'il existe. C'est l'engluement progressif, on va dire. Et c'est, je vous conseille à tous de lire et d'essayer de ne pas vous pendre après, à la fin. C'est ça, quoi. C'est vraiment la meilleure description du rêve, de la matière du rêve, de ce qui est palpable, de ce qui est impalpable, de cette plongée dans quelque chose justement d'alien et d'inhumain dont je parlais précédemment. Voilà, donc Joseph Conrad, il n'y a pas mieux.
Et qui correspond en plus à cette appréhension de l'époque de l'Afrique, et où je me souviens, enfin, moi je reste marquée par cette descente du fleuve avec justement les tam-tams, où le narrateur, effectivement, c'est plus c'est un rêve ou la réalité, et je confirme, lisez Au cœur des ténèbres, relisez Au cœur des ténèbres.
Moi, je reviens sur mon idée du rêve en tant qu'objet littéraire. C'est assez fascinant, c'est narrativement extrêmement riche, et ça ouvre des. C'est une porte ouverte à des jeux de création absolument sans fin, sans limite, puisque on peut systématiquement faire revenir le lecteur au point de départ en lui disant ah, c'était un rêve ou ah, c'était peut-être un rêve. Là, on parlait hier, il y a eu Fabien Velman et Bruno Gazzotti pour la série Seul. On ne sait pas si les personnages sont morts ou s'ils sont vivants. À la limite, ça pourrait être un rêve aussi. Et je repense à un de vos premiers albums de bande dessinée dont le nom m'échappe totalement. Une série, il me semble que c'est un diptyque avec le gamin qui est attiré dans le grenier, qui passe dans un monde parallèle, un truc
Cathédra.
Ouais, avec Cathédra.
Philippe Castazar.
Alors, rêve par rêve. Et là, il y a toujours ce jeu-là. Donc, c'était un petit peu ça comme question que j'essaie de vous poser depuis tout à l'heure. Les possibilités totalement illimitées de la mise en scène du rêve.
Alors, pas illimitées parce que ça peut être très convenu, le fait d'utiliser les rêves, justement. Ça peut être une facilité d'auteur, un peu comme les dialogues explicatifs. Voilà, on met un rêve et comme ça, on est sûr de pouvoir faire passer un message. Donc, ça peut être vraiment convenu. Donc, ça n'est pas illimité, d'autant plus que, de la même façon que certains enfants ne rêvent pas, tout le monde rêve, on est d'accord, mais certains adultes ne se souviennent absolument pas de leurs rêves. Donc, et cherchent, d'ailleurs, moi, je suis tombée sur pas mal de lecteurs qui cherchent dans la littérature de l'imaginaire cette façon de ressentir, passer par le rêve, et certains adultes ne se souviennent absolument pas de leur rêve. Donc ça n'est pas illimité pour moi, tous les sujets ne s'y prêtent pas. Moi, il se trouve que je viens donc d'écrire un livre qui se passe à moitié dans le monde des rêves, oui. Une espèce de monde du sommeil, où chaque personne construit un monde endormi avec évidemment des éléments de la conscience collective, mais aussi des éléments très personnels, et où ça a été particulièrement difficile de ne pas tomber dans le convenu. C'est-à-dire ce travail de l'information qu'on est obligé de faire comme auteur, en fait, a été limité par l'utilisation du rêve. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que je ne suis pas du tout quelqu'un de visuel, mais vraiment pas. En revanche, pour exprimer un moment le monde des rêves, j'ai vraiment vu des séquences de Super 8. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez des Super 8 où de temps en temps ça sautait Et on était dans, et c'est vraiment ce que j'ai utilisé par moments en faisant des chapitres très courts et en traduisant ces séquences de Super 8 en narration. Mais voilà, c'est comme ça que j'ai décrit les rêves et en faisant attention quand même.
Quand tu dis que tu n'es pas quelqu'un du tout de visuel, moi ça me fait penser à Heyerdahl qui pendant 20 ans n'avait de cesse de répéter qu'il ne rêvait pas du tout en images. Moi ça m'a toujours semblé totalement aberrant, mais bon, je veux bien le croire puisqu'il le répète. Mais et par rapport donc à la mise en image en fait des livres, il avait vraiment un rapport à l'image comme étant une sacrée surprise en fait de découvrir l'interprétation que je pouvais en donner ou des choses comme ça. Donc.
Mais comment rêve-t-il s'il rêve pas en image, c'est quoi? C'est des mots, c'est des sensations?
Je sais pas. Il doit s'imaginer devant son clavier toute la journée, quoi. Encore, je sais pas.
Mais toi, tu ne rêves jamais en mots, parce que quand on rêve,
ah bah non.
On
même
dit
la
des
journée,
choses.
Des fois, c'est dur les mots. Alors.
Non, mais quand on rêve, on dit des choses. Il y a des interactions entre des personnages. Des
ah oui, généralement, c'est court. Attention, il arrive. Oui, voilà, c'est tout.
T'es vraiment en retard pour les impôts?
Non, il y a vraiment un travail sur le visuel avant tout, parce que c'est ce qui me reste. Alors je vais pas forcément m'allonger sur la table et vous les décrire ici, mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment des rêves ultra puissants qui jalonnent, je dirais, mon existence.
Tu peux donner un exemple d'un rêve ultra puissant et de son rendu? Une couverture, quelque
vous
chose?
Vous avez
du temps, là? On est là pour ça,
Non, pas par rapport à un rendu, que je pour rappeler des cauchemars récurrents, des choses comme ça, avec des thèmes vraiment très précis, très visuels, alors pour le coup vraiment très visuels. Et bon, il y a un rêve que j'avais décrit il y a une vingtaine d'années, en fait, et qui m'a suivi 10 ans, et qui a abouti à la fin d'une période de ma vie, en fait, lorsque j'ai quasiment perçu dans le monde réel les différents éléments qui m'avaient choqué dans le rêve, en fait. Et c'était des trucs un petit peu hallucinants. C'est pour ça que, quand je les ai croisés dans la réalité, ça m'a vraiment surpris, parce que je ne m'attendais pas du tout à voir le truc avoir pris forme, en fait. Par exemple, cheminer dans un couloir entièrement tapissé d'herbes vertes, du sol au plafond. Alors ça, c'était une image du rêve, tu vois. Bon, je me dis, bah tiens, je me réveille en sueur, je vais noter ce rêve-là, donc c'était en 87, quelque chose
tu
comme ça.
Tu le notes avec des mots ou tu fais un croquis?
Ouais, non, je note avec des mots et ça m'arrive effectivement de faire des croquis, ouais. Et donc, le rêve en question était une espèce de grande narration, voyage un petit peu, et puis donc, il y avait cet élément, entre autres, hein, mais celui-ci étant un des plus marquants visuellement. Et donc, je me dis, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc improbable, en fait? Et 6-7 ans après, une énorme expo au Palais de Chaillot, c'était la première fois qu'il mettait en scène Cité Ciné, ensuite qui est passé à la Villette, en fait. Et donc il y avait tout un travail d'exposition sur l'immersion sensorielle, en fait. Et le décorateur de Peter Greenaway s'était emparé de tous les souterrains du Palais de Chaillot. Ils avaient tapissé tous les souterrains donc de tourbe. Ils avaient arrosé ça pendant un mois. Et donc l'expo, c'était cette herbe verte qui courait partout, parce qu'il y avait des vieilles bibliothèques, il y avait des tas de trucs complètement... Et moi, quand je me suis retrouvé là-dedans, ça a été saisissant, quoi, vraiment saisissant. Et j'ai vraiment eu le sentiment vraiment réel de faire passer une boucle, quoi. Et voilà, il y a eu quelques éléments comme ça. Alors voilà, bon, je l'avais noté, donc du coup, je vérifiais sur le coup en me disant, bon, t'as encore pris un verre de trop, mais... pour le coup, voilà, ça avait été assez marquant. Alors, donc, voilà, il y a des rêves comme ça, ou des paysages, disons des scénettes visuelles que je retrouve ensuite dans certains dessins. Oui.
Tu en as mis récemment dans Le Chant du Troll?
Non, dans Le Chant du Troll, non, parce que le travail a été tellement intense que je rêvais plus, je bossais à ce moment-là. Beaucoup de nuits blanches, donc. Mais voilà, après. Bon.
Donc on va revenir encore une fois sur l'intitulé du débat parce qu'il est amusant. Je suis grand et je ne rêve plus. Est-ce à dire que grandir, c'est se restreindre, c'est se castrer son imagination? Et je vois Anne qui dit non. Alors?
Non, 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 pas du tout. Je crois même qu'on a une définition un petit peu trop restreinte du rêve, c'est-à-dire que éveillé. On rêve notre vie toujours, c'est-à-dire qu'on réécrit notre passé, on projette notre futur. Alors d'abord, premièrement, Beaucoup de gens ont une imagination assez fertile, même éveillée. On voit ça un petit peu dans le feuilleton Ally McBeal, et c'est pour ça qu'à l'époque...
Dans le feuilleton ?
Ally McBeal.
Oui, Ally McBeal.
Ouais.
C'est vrai.
Mais bien sûr, c'était innovant à l'époque, même si ça a été refait plus tard. On voit ça dans Calvin et Hobbes, on voit ça dans le blog de Boulet. C'est-à-dire qu'ils sont dans leur vie quotidienne et ils imaginent soudain les murs qui dégoulinent de sang et de tentacules ou de fleurs, ou la salle qui se remplit d'eau et tout le monde se noie. Ça, c'est éveillé. Et ça, beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens le font. Parmi mes projets que je ne ferai jamais, je voudrais écrire un bouquin qui s'appellerait « Qu'est-ce que vous faites dans votre vie ?» Non, « Qu'est-ce que vous faites dans votre tête quand vous ne faites rien ?» Ça ne serait pas un roman, ça serait demander aux gens ce qu'ils font dans leur tête quand ils ne font rien. Et les réponses sont hallucinantes. Et pas les réponses des auteurs, les réponses de tout le monde. Il y a des gens qui pensent en manga, il y a des gens qui pensent en son, il y a des gens qui vont vous compter le nombre de planches et le nombre de trucs de métal, de carreaux. Des gens qui... Moi, je redécore les pièces et je rhabille tout le monde. C'est-à-dire que là, hop, je vous rhabille 18e tout le monde.
Bon, attendez, elle rhabille. Hein, alors là, on se calme, je ne veux rien entendre dans la salle.
Je ne déshabille personne, je les rhabille. Et de manière moins imaginative, on réécrit ce qu'on a vécu, c'est-à-dire là, dans une heure, quand je penserai à ce débat, ça ne sera pas exactement ce qui sera arrivé. J'aurais déjà un peu changé, vous savez, on est tous de très mauvais témoins, donc j'aurais déjà un peu changé les conversations, un peu changé vos visages. Mon souvenir ne sera pas exact.
Ils sont bien nos visages.
Magnifiques. Ils seront encore.
Non, mais moi, ça me permettrait d'arrêter d'être confondu avec Bernard Werber.
Ah, c'est vrai, ça t'arrive ?
Ouais, avant-hier, ça n'a pas arrêté. Ils voulaient tous m'interviewer, je me disais waouh.
Ah, ben voilà, ben, je vais imaginer Bernard Werber à la place de Gilles maintenant.
Non.
Bon. Après les frères Bogdanov, on va voir les frères Werber.
Et voilà. Je crois que je ne sais plus tout ce que je disais, mais ouais. Voilà.
Donc,
oui, définition trop restreinte du rêve.
Ouais. Oui.
Et puis ne pas confondre le rêve et le désir, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire le rêve comme quelque chose qu'on voudrait atteindre et le rêve qui est une fuite, effectivement, quand on s'ennuie ou quand on ne fait rien, ou effectivement, bon, on passe par des tas de techniques pour justement ne pas rien faire. Donc pas confondre ça, je pense que la plupart des adultes ont des rêves et qu'on doit vraiment, j'insiste là-dessus, s'éloigner du cliché avec les enfants qui ont des rêves et qui les perdent. Non, le monde de l'enfance n'est pas obligatoirement un paradis perdu. Là-dessus, même si, et là je parle en tant que prof, nous en tant que prof, on passe notre temps quand même à dire aux élèves d'arrêter d'être dans l'imaginaire. On a beau utiliser de façon très hypocrite des techniques qui touchent l'imaginaire pour les faire s'exprimer, on passe notre temps à leur dire « concentre-toi, reste avec nous, alors, reste avec nous, reste avec la classe, reste avec, avec tout le monde ». Donc justement de ne pas les laisser s'évader en permanence. Donc il y a quand même effectivement dans la définition du rêve, il y a ça aussi... Au contraire, cette restriction, ce formatage qu'on fait très jeune chez certains enfants, pour leur dire, voilà, la réalité, c'est bien, et l'imaginaire, obligatoirement, c'est une fuite. Et le rêve, c'est obligatoirement une fuite. Tu ne pourras rien en faire.
Ça fait peur.
Oui, mais...
Le message que passe l'éducation nationale par
Mais c'est le message que passe l'éducation nationale et on est obligé parce que là en revanche il y a une réalité. La réalité c'est que tout le monde n'est pas capable de travailler avec son imaginaire et que aujourd'hui on n'a pas les moyens obligatoirement de développer cet imaginaire chez les enfants.
Ce qui me choque, c'est parce que certains ne le font pas, du coup on va brider tout le monde, ça me paraît un peu étrange.
Non, c'est pas. Il n'y a pas une volonté. Je suis pas en train de dire c'est bien. On est en train de construire des briques dans un mur. Mais voilà, je suis pas du tout en train de dire ça. La réalité de l'enseignement de l'imaginaire, en tout cas en français, c'est aussi ça. On utilise l'imaginaire, mais on est bien obligé, malgré nous, d'amener cette structure. Et cette structure passe par la réalité parce qu'on n'est pas là pour faire des écrivains. On est là pour faire des citoyens aussi. Et des gens qui vont travailler aussi et qui vont devoir...
Obéir.
On essaie de ne pas le faire. on essaie de ne pas le faire, mais la structure, souvent, nous empêche de, justement, de les rendre libres. Enfin, en français, on y arrive quand même un peu plus, à les rendre libres. Mm-hmm. Mais voilà. Je suis désolée, hein, voilà, je suis le cafard à tout le monde, mais c'est une réalité, on formate quand même aussi les enfants. D'un côté, on leur dit qu'ils doivent rêver à tout prix, et puis après, on leur dit, non, mais arrêtez de rêver, concentrez-vous. Mais pas que les enseignants, les parents aussi passent leur temps à dire,
reviens
avec nous, arrête de fuir dans des mondes imaginaires. Moi, ce que j'entends le plus en tant que prof, et là, je reviens sur la littérature de l'imaginaire, c'est, mon enfant ne lit pas, il ne lit que de la science-fiction. Ça terrorise les parents, ça, de savoir que leur enfant fuit.
Oui, oui.
Et j'arrête parce que je sens qu'on va atteindre le point Tolkien, qui consiste à citer Tolkien dans n'importe quelle table ronde des utopiales, en parlant de l'évasion du prisonnier, de la fuite du déserteur, qui est la citation
ça,
à la mode.
Je connais absolument pas ça.
Tu connais pas ça, mais pourtant c'est la citation à la mode. Tolkien disait il ne faut pas confondre l'évasion du prisonnier et la fuite du déserteur, en parlant de l'imaginaire, justement, du rêve.
Ça me rappelle juste une petite anecdote sur le côté quand même, entre guillemets, faites ce que je dis et pas ce que je fais forcément. De Pénac, en fait, qui est dans un des livres où il parlait réellement de son rapport aux parents et aux élèves.
Comme un roman, oui.
Il cite à un moment donné donc un père qui vient en disant « Mais bon, c'est pas possible, mon fils est totalement immature, il faudrait qu'il grandisse, qu'il prenne ses responsabilités, tout ça. » Et Pénac lui demande « Mais votre fils, à quel âge ?»« Ben, il a 12 ans. » Alors il essaie de tempérer un petit peu ses exigences. Et puis en fait, le lendemain, je crois, il croise le père de famille en question qui allait bosser en faisant de la trottinette, en fait.
Oui, c'est complètement ça. Il faut voir aussi qu'on est une génération, en tout cas, du rêve, je pense, énormément. Donc je ne suis pas d'accord pour dire que les adultes ne rêvent plus. Je dirais que... Enfin, ne rêvent plus. Là, je viens de casser tout ce qu'on vient de dire, mais dans le sens où... J'aime bien, voilà, pour conclure. Non, mais dans le sens où on est peut-être la génération qui utilise le plus les rêves. D'ailleurs, on est... Enfin, moi, en tout cas, je suis partie d'une génération qui ne vote pas, qui n'a pas cette prise avec le réel, en tout cas. Ce qui est assez...
Moi, je croyais que c'était voté, que c'était... qui était totalement rêvé. Non.
Non. Non, on va pas finir en se disputant. Non, mais
il y a jamais eu autant. Enfin, je veux dire, les adultes sont absolument pas bridés dans leur imagination. Il y a jamais eu autant de créations artistiques depuis le début de l'humanité. Franchement, jamais. Le minimum d'éducation qu'on a en France, dans la société occidentale, nous donne des outils. Et après, il y a d'autres outils technologiques. Jamais. Enfin, tout le monde. Dessine vaguement, filme et fait ses petits films sur Internet,
écrit des manuscrits,
crée, blog, discute, des blogs, fait des manuscrits, fait des jeux. Enfin, je veux dire, le secteur de l'imaginaire, en prenant les jeux vidéo, le film, le cinéma, les séries télé, la musique, ça n'a jamais été aussi fort, ça n'a jamais été aussi important. C'est pas que je suis grande et je ne rêve plus, c'est que je suis grand et les grands n'ont jamais autant rêvé et n'ont jamais autant gagné de l'argent avec leurs rêves aussi. Donc, je veux dire, on est une des générations les plus créatives depuis le début de l'humanité.
La génération des 70, en fait. Hein. Le mot d'ordre, c'était vous êtes
ça me concerne pas,
créateurs.
Je suis avant.
Moi aussi, en fait.
Non, pas moi, je suis désolée.
Enfin, je vais faire une dernière remarque que je vous livre comme ça, qui est assez amusante. C'est que souvent, quand des lecteurs rencontrent des auteurs, des dessinateurs ou des cinéastes ou des hommes de théâtre, tout ce que vous voulez, un des trucs qui revient le plus souvent, c'est « Oh là là, merci, vous nous avez fait rêver ». Donc il y a aussi quand même ce côté fascinant de la création, finalement, de la création chez l'autre, où tout d'un coup, on a l'impression que soi-même, on n'en est absolument pas capable. Donc vous avez, enfin, l'artiste a une fonction sociale liée au rêve.
Ah oui, et puis c'est merveilleux. Enfin, je veux dire, je cherche pas à être pessimiste, quoi. On a un travail extrêmement privilégié, une vie extrêmement privilégiée, une chance incroyable de faire ça. Et quand les gens viennent nous dire ça, enfin, je sais pas vous, mais moi je suis ravie. Hein. Quand les gens viennent nous dire, vous nous avez fait rêver, je suis aux anges.
Bon, ben on va s'arrêter là, on dit que c'est le mot de la fin. Éventuellement, je ne suis pas certain qu'il soit temps de prendre des questions dans le public, mais on va peut-être faire balader le micro 5 minutes. Qui veut, j'avais pas vu passer l'heure, pourtant j'ai sorti mon outil technologique suisse. Qui veut poser une question à nos amis qui sont là Oh ben non.
Plus qu'une question, c'est plus une réflexion à laquelle j'aimerais que vous réagissiez. Vous avez fait souvent opposer la structure au délire. Et pour moi, c'est pas ça qui différencie la littérature jeunesse, c'est plus la volonté ou la possibilité d'aller vers l'absurde. Et ça peut être très structuré, l'absurde. On pense à Shelley, Brown, ou même Philémon, que tu citais. Est-ce que vous avez souvent des tendances à aller vers l'absurde que vous réfrénez ?
Ce monsieur travaille dans le jeu vidéo, donc il n'y a pas plus rêve aussi comme boulot. C'est pour ça que j'ai dit, oh ben non, c'est parce que...
J'ai pas ce sentiment d'aller vers l'absurde, mais c'est difficile à dire parce que je dois vivre dans un monde complètement absurde finalement. Donc j'ai pas ce sentiment justement d'aller vers l'absurde. D'autant plus que pour moi l'absurde ça correspond obligatoirement à un mouvement littéraire surréaliste, qui est le mouvement qui s'adresse, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire en emmerdant les gamins avec Prévert pendant des générations, maintenant au moins deux, on a essayé de faire croire que l'absurde était accessible aux enfants, alors que pas du tout, finalement. Donc, non, pas l'impression.
Mais merci.
Moi, je pense que oui, c'est un problème chez moi. Je pense que j'ai une tendance à l'absurde que je n'utilise pas et que je devrais un peu libérer.
Une autre question, puis on s'arrêtera là-dessus. Pensez voir le débat suivant arriver, donc on va grappiller encore une minute ou deux. Oui, t'attendras, Alexis. Et puis on va essayer de répondre de manière courte.
Moi non plus, c'est pas vraiment une question, c'est une remarque sur laquelle j'attends des réactions. Tout à l'heure, le modérateur parlait effectivement du public qui allait vers les créateurs en disant « Merci, vous nous avez fait rêver », ce qui veut dire que a priori, le public adulte estime peut-être ne plus rêver. Et moi, j'ai remarqué, parce que je travaille dans l'animation et avec les jeux, j'ai remarqué que les adultes, à partir du moment où ils étaient entrés dans le monde du travail, s'interdisaient d'aller vers la littérature jeunesse, d'aller vers les bandes dessinées et d'aller vers les jeux. Et peut-être que, en fait, tout ça, c'est le rêve un petit peu. Et voilà, j'attends des réactions.
Déjà ici, je trouve, durant le festival, le public en question dont tu parles est plus à l'extérieur en fait du festival, peut-être. Je sais, j'imagine, si quelqu'un vient ici passer sa journée, il vient y chercher quelque chose, j'espère, de cette part de rêve en fait. Vas-y.
C'est générationnel. C'est-à-dire que c'est vrai pour les 40, qui ont été éduqués encore, certains avec, quand on est un homme ou une femme sérieux, on est un homme ou une femme sérieux et on doit assumer ses responsabilités. En dessous de 30, c'est absolument plus vrai parce que l'éducation nationale, justement, a fait son boulot, je pense, et leur a dit que l'imaginaire, c'était important, que les hobbies, les passions, c'était important, que l'expression de soi, c'était important. Et je ne connais pas une personne de moins de 30 ans qui ne joue pas aux jeux vidéo, qui ne lise pas des BD, qui ne lise pas la science-fiction,
Ce qui m'intrigue, là, c'est du coup, est-ce qu'on n'est pas en train de confondre rêve et consommation des produits qu'on nous a bien accordés pour pouvoir rêver ? Parce que moi, ça me fait halluciner. Je n'ai quasiment jamais joué à un jeu vidéo.
Moi, c'est pareil.
Et j'ai pas l'impression d'être handicapé pour autant du rêve, tu vois. Et moi, à la limite, ça me fait même peur quand on te joue un adolescent, voire un vieillard adolescent.
Nos collègues.
Tu vois, moi, sur l'intitulé du débat, j'avais même cru, par exemple, que c'était peut-être même les métiers en question qui étaient la continuité du rêve d'enfant, par exemple, tu vois, qu'il y a aussi ce rapport-là, et que, du coup, parce qu'il y a aussi une relation un peu, des fois, à l'immaturité, tu vois, sur, par exemple, moi, je vois en dessin, c'est, de toute façon, vous dessinez des métiers, des Mickey, mais vous faites quoi comme métier, quoi. Et, tu vois, il y a aussi ce rapport-là, parce que c'est très bien quand le public dit, vous nous avez fait rêver, mais est-ce que la personne qui te dit, merci de nous avoir fait rêver, est-ce qu'il accorde à son propre enfant de choisir ton parcours ? Ça, je ne suis pas sûr, quoi.
Moi, je suis sûr du contraire, pour être plus précis.
Tu vois ? Donc ça, voilà, ça me fait. Il y a toujours quand même cette différence de comment on te considère en face en tant qu'objet de rêve. et comment on va s'accorder soi-même la part de cette folie quand même, de cette liberté, parce que choisir ce métier, c'est quand même une pure folie au départ, quoi.
Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous invite maintenant à vous rendre soit à la librairie pour voir les dédicaces, participer aux dédicaces de nos amis auteurs, du débat de l'autre côté de ce matin, de celui-ci, et puis de toute façon tous les auteurs qui y sont. Ou alors, vous avez aussi la possibilité de rester dans ces deux espaces pour regarder Gilles courir, animer une rencontre avec Alexis Bricot, un de nos très bons illustrateurs.
Le meilleur.
Ouais, puis une belle coiffure.
Et une belle coiffure.
Ouais.
Et un petit côté rock'n'roll.
Et bon, sinon,
j'y vais parce qu'il va m'étrangler.
Ouais, vas-y, vas-y. Et sinon, il y a ici maintenant un débat qui m'a l'air fort intéressant sur l'Uchronie. L'Uchronie comme genre européen ou pas, avec Serge Lehmann, Scott Westerfeld, pardon, et Ronan Toulouat et Vincent... Excusez-moi, Brujage, j'ai failli me prendre les pieds dans le tapis, qui sont dans la bande dessinée, ces braves gens. Voilà. Et l'animateur, Emmanuel Barguil. Et merci de nous avoir écoutés.